C'est l'heure de Vue de Belgique, une heure inhabituelle, mais Vue de Belgique, c'est Vue de Belgique. Et je vous le disais, on va revenir sur les discours qu'ont prononcés les présidents de parti lors des cérémonies d'avant-hier, du 1er mai, les cérémonies et les discours traditionnels. Et pour nous en parler avec vous, ma chère Asselet, vous avez un invité que je vous laisse le soin de nous présenter.
Benjamin Billard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio Judaïka ce matin. Vous êtes politologue au CRISP, qui est donc le Centre de Recherche et d'Information Sociopolitique. Et donc, Benjamin Billard, à l'occasion du 1er mai, les différents partis politiques du pays ont prononcé des discours à travers la Belgique, notamment à Bruxelles pour le MR, Écolo et le PTB, mais aussi à Charleroi pour le PS. Alors, ce que l'on note dans ces discours, ce sont diverses revendications, à commencer par celle de Paul Magnette concernant la proposition de Vaureuil d'activer davantage les chômeurs de longue durée et de supprimer les allocations de chômage pour ceux qui n'acceptent pas un emploi de base après 2 ans d'inactivité. Le MR et l'Open VLD, y compris le Premier ministre Alexander De Croo, se sont montrés en faveur de cette proposition de Vaureuil. Pour le PS et pour Écolo, c'est un grand non. Écolo propose une main tendue et le PS, Paul Magnette entre autres, déclare que ce n'est pas dans l'accord du gouvernement. Alors pourquoi une telle proposition de Vaureuil si cela ne figure vraisemblablement pas dans l'accord du gouvernement ?
Il me semble en tout cas qu'il y a au moins 4 éléments d'analyse par rapport à cette séquence politique. Premièrement, c'est que ce n'est pas interdit de formuler des propositions qui ne figurent pas dans l'accord de gouvernement. Tous les partis qui aujourd'hui forment la Vivaldi ont déjà procédé à des propositions qui ne figuraient pas dans l'accord de gouvernement. Ça a fait parfois plus ou moins de bruit. Ce qu'on voit, c'est que dans un gouvernement rassemblant 7 partis, eh bien, on a autant de ce que je qualifierais de notaires de l'accord de gouvernement, c'est-à-dire de personnes qui vont veiller à ce que on puisse mettre en œuvre l'accord de gouvernement, en tout cas pour les partis dont ils sont issus, les propositions qu'ils ont défendues lors des négociations de 2020, mais aussi des personnes qui vont veiller à ce qu'on n'avait pas nécessairement au-delà. Donc, ce qui veut dire que il est toujours possible, évidemment, de pouvoir formuler des propositions qui vont au-delà, mais que leurs chances de réussite sont particulièrement minces, à mon sens. Le deuxième élément, c'est que le contexte sociopolitique en Flandre est particulièrement différent de ce qu'on peut observer du côté francophone du pays, ce qui peut effectivement contribuer à des prises de position, y compris au sein de la famille socialiste, qui sont parfois distinctes entre le nord du pays et le sud. Ce n'est pas tout à fait nouveau, repensons à la fin des années 90, avec notamment Frank Vandenbroucke, qui, lorsqu'il réintègre le gouvernement en 1999, le premier gouvernement dirigé par Guy Verhofstadt, amène avec lui les concepts de troisième voie, d'une certaine manière. Troisième élément de l'analyse, c'est la séquence électorale, finalement, qui s'ouvre en perspective de 2024, des élections à tous les niveaux de pouvoir, du niveau local jusqu'au niveau européen. Il est donc question, éventuellement aussi, pour Conor Rousseau, d'offrir des gages à de futurs partenaires, notamment à la droite de l'échiquier politique. On sait que Conor Rousseau ne cache pas sa préférence pour une coalition associant la NVA. Il a d'ailleurs déjà indiqué que leur collaboration dans la ville d'Anvers n'était pas si mauvaise que cela. Enfin, dernier élément, me semble-t-il, sans être exhaustif, c'est l'état des sondages qui booste d'une certaine manière les socialistes flamands. Souvenons-nous que lors des élections du 26 mai 2019, le SPA, comme on l'appelait encore, l'ancien nom de Vaureuil, avait décroché 6,7% des suffrages valablement exprimés. C'était son niveau historiquement le plus bas. On était loin des 14,9% engrangés en 2003, presque 15 ans plus tôt. Et ce qu'on observe depuis l'accession de Conor Rousseau à la présidence du parti, c'est qu'il parvient à redécoller. Et donc il y a un intérêt sans doute à travers ce type de proposition formulée par Conor Rousseau de communiquer davantage pour occuper le terrain d'une certaine manière dans cette séquence électorale qui s'ouvre.
Alors effectivement, Benjamin Billard, on a pu voir certains rapprochements, on en a d'ailleurs déjà parlé avec vous sur notre antenne, entre les libéraux francophones et flamands du MR et de l'Open VLD, entre autres au sein de leur groupe respectif au Parlement fédéral. Et en parallèle à cela, est-ce qu'on ne voit pas finalement une scission des socialistes francophones et néerlandophones avec Vaureuil qui, comme vous l'avez dit, pourrait s'inscrire davantage dans la ligne politique du MR, de l'Open VLD, mais peut-être même plus encore de la NVA?
La scission, en réalité, elle a déjà eu lieu, puisque, souvenons-nous, le Parti socialiste était un parti unitaire de 1885, date de création du POB, comme on l'appelait encore ailleurs, à l'époque, jusque 1978, qui est la véritable date, l'automne 1978, de la scission du parti unitaire en 2 branches, à l'initiative à l'époque des socialistes francophones menés par André Kohl, le Parti socialiste flamand et le Parti socialiste francophone. On a déjà eu une scission avec des coopérations, des collaborations entre les deux formations nouvellement créées qui ne sont pas évidentes, notamment dans les années 80. Souvenons-nous que les socialistes rejoignent l'opposition pendant plusieurs années dans les années 80 et que leur collaboration s'en retrouve affectée. De manière générale, les relations ne sont pas toujours évidentes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des relations de proximité qui les caractérisent, et cette proximité se retrouve particulièrement renforcée depuis l'accession de John Crombie à la présidence du SPA, mais surtout depuis l'accession de Conor Rousseau à la présidence du SPA et de Paul Magnette à la présidence du Parti socialiste, dont les relations sont particulièrement positives. Alors, je pense que chacune des deux formations politiques aujourd'hui partage un même fond idéologique. Ce sont deux formations qui partagent une idéologie socialiste, à mon sens, mais avec des sensibilités assez distinctes et qui tiennent d'ailleurs au contexte politique dans lequel chacun évolue, ou aussi à la concurrence électorale que chacun rencontre dans sa propre zone électorale. Ce qui me fait dire qu'on fait face davantage à un parti qui s'assume comme étant socialiste du côté francophone du pays avec le PS, avec plutôt du côté flamand un parti de tradition social-démocrate, je dirais, qui tend à s'inspirer par exemple de la social-démocratie danoise. Donc des différences de sensibilité sans doute autour d'une idéologie largement partagée, et puis des relations qui semblent néanmoins distinctes à certains égards. Ça reste des partis différents depuis 1978, il n'y a pas de volonté de se rassembler, ni même d'ailleurs de former un groupe politique commun à la Chambre des représentants ou au Sénat, mais avec des moments de proximité également parfois très denses, très intenses. Collaboration très forte au niveau parlementaire, à travers les secrétaires politiques de chaque groupe, par exemple, au moment des formations ou des négociations visant la formation de gouvernement, particulièrement au niveau fédéral. On sait que les relations étaient extrêmement intenses entre Conor Rousseau et Paul Magnette en 2020, et entre les directeurs des deux centres d'études respectifs également. Et puis, élément symbolique, mais qui n'est pas anodin, puisqu'il permet de renforcer les relations sur le plan plutôt informel et impersonnel, c'est le déménagement récent de Voreuil vers le siège du Parti socialiste au boulevard de l'Empereur, ce qui permet effectivement au cadre de ces formations, à un certain nombre de leurs mandataires, de se rencontrer plus facilement, plus aisément, et donc de pouvoir là aussi davantage coopérer éventuellement autour de certains dossiers.
Mmh. Alors, côté PTB, hein, parce que le PTB a également fait son discours du 1er mai, Raoul Edebo, son président, a prononcé donc son discours à Bruxelles lundi. Alors, outre sa proposition de taxer davantage les millionnaires belges, il a également critiqué les partis de droite OpenVLD, MR et NVA, mais il a également critiqué le PS qui, je cite, font de grandes déclarations de gauche le 1er mai, mais les mettent à la poubelle le 2 mai. On a l'habitude des sorties de Raoul Edebo, cependant, est-ce que ces propositions et ces propos, c'est concret pour un parti politique qui commence, on va se l'avouer, à s'imposer dans les sondages?
À s'imposer dans les sondages, y compris sur le plan parlementaire, si on s'en tient aux élections d'abord 2014 et aussi et ensuite de 2019. Ce qu'on a pu observer effectivement, c'est trois grandes cibles d'une certaine manière qui sont assez classiques dans le discours de Raoul Edebo et du PTB contemporain. D'une part, les riches, deuxièmement, les autres partis politiques, fussent-ils de droite mais aussi de gauche, et enfin le monde politique, la classe politique, l'establishment, on pourrait même dire de manière générale. Le PTB se retrouve aujourd'hui boosté par une actualité politique très riche pour ce qui le concerne, certains scandales politiques, la question des compléments de pension par exemple pour les présidents de la Chambre, mais également un contexte social qui lui est favorable. C'est le conflit social qui marque de l'aise depuis déjà un certain nombre de semaines. On voit ainsi qu'il essaye de faire tenir son discours dans cette actualité bien particulière. Alors, pour ce qui concerne finalement ses propres propositions, son programme, on peut observer que, par exemple, à Zelzat, il a réussi à imposer une sorte de tax shift permettant de réduire la fiscalité pour les ménages et pour les indépendants, tout en augmentant la fiscalité pour les multinationales présentes sur ce territoire. Donc, on peut voir la patte, l'empreinte du PTB au niveau de cette commune très concrètement, et ce tax shift qui avait été contesté au Conseil d'État a été validé d'ailleurs en juin 2022, ce qui l'a renforcé. Néanmoins, ça reste un cas isolé. La véritable question qu'on peut se poser, et à laquelle Raoul Edebo a déjà amené d'ailleurs certains éléments de réponse encore dernièrement, c'est de savoir est-ce que vraiment le PTB a l'intention ou l'ambition de participer au pouvoir. On sait, à l'exception de ce cas de Zelzat que je viens de rappeler, que participer au pouvoir en Belgique, et particulièrement depuis 1899, c'est-à-dire l'instauration du mode de scrutin proportionnel, on fait face à des gouvernements composés par deux ou plusieurs formations politiques qui se partagent le pouvoir, ce qui signifie une nécessité de trouver des compromis. Et c'est peut-être là, effectivement, que la difficulté pour le PTB apparaîtrait au grand jour.
Alors, une dernière question, Benjamin Billard. Vous avez parlé en début d'entretien de séquence électorale. Finalement, tous ces discours, sous le couvert de discours à l'occasion de la fête du travail, est-ce qu'ils n'ont pas déjà un réel avant-goût de vrais discours de campagne ?
Absolument. Je pense tout à fait que c'est de cela qu'il s'agit. Une campagne, d'ailleurs, qui s'annonce particulièrement rude, dans un contexte de fatigue démocratique qui tend à s'amplifier. On l'a déjà vu en 2019, on l'avait déjà vu en 2014 et encore lors des élections précédentes. On risque de voir l'abstention, mais aussi l'absentéisme électoral, le fait de ne pas se rendre aux urnes malgré l'obligation de vote, à l'exception des communales en Flandre désormais, s'accroître. Et également le vote pour des formations anti-système, qu'elles soient de gauche radicale comme le PTB ou d'extrême droite comme le Vlaams Belang par exemple, là aussi s'accroître. Ce qui aura pour conséquence de participer à une fragmentation toujours plus importante du paysage électoral et partisan au niveau national notamment, et donc ce qui aura pour conséquence également de rendre plus compliquée la formation d'un gouvernement, puisque les formations dites traditionnelles peineront vraisemblablement, si on en croit en tout cas les sondages, à dégager des majorités évidentes avec un nombre de partis restreint. Ça promet des tensions entre les partenaires éventuels d'une future coalition, notamment quand on sait que certains espèrent pouvoir, et c'est un objectif notamment qui a été annoncé par Alexander De Croo lors de la mise sur pied de son gouvernement, c'est de préparer une 7e réforme de l'État qui pourrait être débattue lors de la prochaine législature, mais une 7e réforme de l'État, ça nécessiterait une majorité des 2/3. Quand on sait qu'il sera déjà difficile, vraisemblablement, toujours selon ces sondages, de former une majorité tout court, ça promet effectivement de belles tensions.
De belles tensions, une campagne électorale rude, et on aura bien évidemment l'occasion d'en reparler avec vous sur notre antenne, je n'en doute pas. Benjamin Billard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Radio Judaïka. Belle journée à vous, à très bientôt.
Une belle journée également.